Il est 8h. La suite de la matinale avec Isabelle Moreau.
Bonjour, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant dans la matinale week-end. Dans une minute, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Il reçoit ce matin Jean-Luc Barré, historien, écrivain, éditeur. Il sera question en ce 18 juin, bien sûr, du général de Gaulle et notamment des 50 ans de l'inauguration de la Croix de Lorraine à Colombey. Les deux églises, mais pas seulement. D'abord, les principes au titre de l'actualité marqués par cette canicule, ce pic de chaleur attendu pour aujourd'hui. 14 départements vigilants rouge dans le sud-ouest, 56 autres en vigilance orange, une canicule qui bat tous les records pour un mois de juin. On peut attendre jusqu'à 42 degrés par endroit aujourd'hui. Un nouveau refus d'obtempérer, ça s'est passé hier soir dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur d'un véhicule a percuté et blessé 3 policiers. Il a pris la fuite et est activement recherché. Alors que ça fait bientôt 4 mois que l'Ukraine est en guerre, nous reviendrons sur sa demande de candidature pour intégrer l'Union européenne. Les 27 décideront la semaine prochaine, mais Volodymyr Zelensky parle déjà d'une étape historique. Tout de suite, c'est l'interview de Jean-Pierre Elkabbach.
Europe Matin Weekend.
Votre matinale info sur Europe 1.
Eh bien, on l'a constaté, la canicule frappe déjà toute la France très tôt ce matin, avec des records historiques de chaleur. Isabelle vous l'a dit tout à l'heure, Karine le répétera dans quelques instants, et nous le montrerons dans les journaux de CNews, tout à l'heure et toute la journée. Bienvenue Jean-Luc Barré. Malgré la canicule, ils seront tous à Colombey les deux églises pour le mémorial et en même temps les 50 ans de la Croix de Lorraine. La croix s'élève toujours comme un symbole vivant, même aujourd'hui.
Oui, en même temps, le général ironisait un peu là-dessus, parce que quand on lui en parlait, de son vivant, effectivement, la question s'est posée de l'érection de ce mémorial. Il a dit oui, il y aura un mémorial sur une colline de Colombey, mais il n'y aura personne. Et ce qui incitera les lapins de la Haute-Marne à faire de la résistance.
Il n'y a pas que les lapins, apparemment, il y a des touristes aussi beaucoup. Et ce matin, le président de la République, Emmanuel Macron, avec son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, seront au mémorial du Mont Valérien. Ce qui veut dire que l'héritage du général de Gaulle continue donc aujourd'hui d'inspirer. Lui, de Gaulle, respectait les frontières, les territoires, les nations. Qu'est-ce qu'il aurait dit ou qu'est-ce qu'il dirait à Poutine ?
Écoutez, d'abord, je pense qu'il aurait parlé avec Poutine depuis longtemps. C'est-à-dire, de Gaulle avait compris une chose, c'est que la psychologie des dirigeants était une clé essentielle dans les relations internationales. Il aurait sans doute anticipé, puisqu'il a toujours été dans l'anticipation historique. J'ai trouvé une de ses conférences en 1921, il est en Pologne, où il annonce déjà la fin du bolchevisme. Donc c'est quelque chose, il se projette. Et donc je pense qu'il n'aurait pas été surpris, comme sans doute on l'est aujourd'hui, par la violence des événements.
Oui, mais il aurait parlé même pendant la guerre ?
La question, il aurait parlé avant. Je pense que, de toute façon, de Gaulle a toujours réagi de manière très claire par rapport aux agressions. Quand il s'est agi de l'agression russe contre, au moment du printemps de Prague, en Tchécoslovaquie, quand il s'est agi même par rapport à Israël, de ce qu'il a pu percevoir comme une agression d'Israël à l'égard du monde arabe, ou vice-versa d'ailleurs, eh bien il a toujours condamné ces agressions-là. Et c'est très significatif d'ailleurs ce qu'il dit au moment du printemps de Prague. Il dit au fond, il condamne bien sûr l'agression contre un pays ami, etc. Et en même temps il dit, mais ils ne vont pas se battre, en parlant des Tchèques. Donc l'idée même de résistance dont on parlait à propos de Colombey est vitale, évidemment pour De Gaulle. La question du dialogue, pour lui, ne peut pas être interrompue. Mais en même temps, c'est un soldat.
Donc est-ce qu'il serait allé à Kiev ?
Je pense qu'il serait allé à Kiev peut-être un peu avant. Il a été à
Ou
Kiev.
Pendant la guerre.
Il a été à Kiev, d'ailleurs, en 1900, dans les années 60. Et il avait dit deux choses importantes, quand même, à retenir. Il avait dit, d'abord, la France connaît l'Ukraine depuis des siècles entiers. La formule « siècle entier » est extraordinaire. Et il dit en même temps, nous savons le rôle que l'Ukraine a joué dans la création de la Grande Russie. Voilà. Donc, et il y va, accompagné d'ailleurs des dirigeants soviétiques.
C'est-à-dire que pour lui, la géopolitique, c'était d'abord la connaissance de la géographie.
C'est ça, la connaissance de la géographie, la connaissance de l'histoire. C'est ce qui est très curieux chez De Gaulle et en même temps tout à fait génial et exceptionnel, évidemment, c'est que cette connaissance vient de loin. Vous savez, il aimait à dire je dis ça depuis 1000 ans. Bon, d'une certaine manière, on peut dire qu'il connaissait, sans vouloir faire de la géographie, la Russie depuis 1000 ans. Il la connaissait bien, il connaissait les ressorts de ce pays, il connaissait son voisinage, les relations qu'il avait avec les peuples environnants. Donc la géographie, la géopolitique, l'histoire, la psychologie des peuples.
Oui, des peuples, des êtres et des rapports entre les chefs d'État, on l'a dit, on va le répéter. Emmanuel Macron l'avait dit, la géographie, quand il a eu à Moscou, son premier entretien, vous avez les deux côtés de la table, là, si longue, il avait parlé de la géographie.
C'est évident, et puis ce qui vient de loin.
Oui, mais beaucoup de gens oublient ça. Oui. De Gaulle était apparemment sans affect, même s'il était pragmatique, et il tient compte des rapports de force, ce qu'il va dire lui-même ici, en 1961.
De cette solidarité dépend tout espoir d'unir l'Europe dans le domaine politique et dans le domaine de la défense. De cette solidarité dépend par conséquent le destin de l'Europe tout entière, depuis l'Atlantique jusqu'à l'Oural.
Voilà, de l'Atlantique à l'Oural. Il intègre la Russie sur le continent européen.
Et pas seulement la Russie. Quand il parle de l'Europe, il parle de l'Europe de l'Occident, de l'Orient et du Centre. C'est-à-dire que c'est une, évidemment tout à fait. Je pense qu'on a critiqué l'élargissement de l'Europe. De Gaulle aurait été pour l'élargissement de l'Europe, très naturellement, historiquement. Mais à un certain nombre de conditions, quand il parle de ça, de l'Atlantique à l'Oural, à ce moment-là, il pose quand même deux conditions qu'il faut garder en tête pour comprendre aussi ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'il ne s'agit pas. Évidemment, il faut que l'Union soviétique redevienne la Russie. Donc, de ce point de vue-là, il faut une Russie qui revienne à ses origines d'une certaine manière, qui ne soit pas dominée par une idéologie. Et puis, y a l'idée aussi qu'il ne faut pas faire la nouvelle Europe contre la Russie. Autrement dit, que la Russie ait l'impression qu'on fait l'Europe contre elle, ce qui peut être en train de se passer.
Et il soutient la Russie, mais pas le régime communiste, comme avec la Chine.
Comme la Chine.
Et il dit, je la reconnais, mais pas le régime
mais
de Mao Tse-tung.
Il ne croit pas à l'idéologie. Il pense que les peuples ne sont pas fédérés par une idéologie, ils sont fédérés par des traditions et par une histoire.
Ah oui. Une histoire, une culture. Mais comment des Européens sont-ils arrivés, Jean-Luc Barret, au XXe siècle, à s'entretuer, non pas dans l'Union européenne, mais au sein de l'Europe elle-même. Et les gaullistes, ou certains gaullistes, peut-être exagèrent-ils, ou sans doute exagèrent-ils, prétendent que si De Gaulle avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu de guerre. Elle n'aurait pas eu lieu.
Quelle guerre ?
Là, Ukraine.
Mais c'est excessif
comment
de dire ça. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aurait pas eu de guerre. Je crois qu'il y, aurait eu, il y a eu des guerres du temps de De Gaulle. Mais il y avait chez lui, encore une fois, d'abord, concernant la Russie, parce qu'on parle de la Russie en ce moment essentiellement, je pense que sa politique a toujours été de considérer qu'il y avait des rapports de force. Donc il s'agissait d'établir des rapports de force, il s'agissait de faire en sorte que ça ne soit pas forcément les Américains qui décident du sort de l'Europe, voire des relations que la France pouvait avoir avec, avec la Russie. Et il était obsédé par l'idée de la paix. Et il disait, au fond, toute ma politique consiste à faire la paix.
Mais vous savez,
donc,
c'est lui
à l'établir.
C'est lui qui va le dire, dans un instant, le général de Gaulle lui-même, en 61.
À un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur. Les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. Est-ce que ça veut dire que pour toujours, les deux camps devront s'opposer ? Ce n'est pas du tout ce que pense la France, parce que ce serait vraiment très bête et que ce serait vraiment très cher.
Très bête et très cher. Mais la négociation vient après. D'abord, la résistance, il aurait soutenu la résistance, évidemment.
Oui, je vous l'ai dit à propos de la Tchécoslovaquie, enfin du
président
de Prague,
à
condition qu'on se batte. Et l'idée même qu'un peuple se batte pour... Il croit au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, évidemment. Et il l'a manifesté en allant au Cambodge, même à Québec. Donc l'idée même, c'est pas à lui, De Gaulle, qu'on va expliquer qu'un peuple ne doit pas se défendre pour sauver son indépendance. Il l'a montré, c'est son combat, c'est sa vie. Pour autant, encore faut-il qu'on se batte, c'est le cas en Ukraine.
Mais bien sûr.
Un point intéressant dans ce document, là, que je voudrais quand même signaler, c'est que quand il dit cela, en même temps, il ne croit pas fondamentalement qu'il y ait un risque de déflagration mondiale. C'est un rapport de force qu'il installe. Et pour l'anecdote, Khrouchtchev était venu à Paris, dans cette période-là d'ailleurs, et il avait dit au fond, mais il est trop vieux et trop gros pour faire la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je sais à qui j'ai affaire, je connais la psychologie des dirigeants, et même si j'installe un rapport de force, les risques, évidemment, sont moindres.
Alors, vous avez préfacé le De Gaulle de la Pléiade. Je sais que vous préparez deux volumes de l'histoire ou la biographie de De Gaulle avec des inédits. Vous vivez avec lui. En 1964, vous avez parlé des États-Unis. En plein Conseil des ministres, il a dit « La suprématie américaine est un énorme danger mondial. Est-ce que ça veut dire que c'est une permanence ou c'est déjà...
D'abord,
avec anticipation, le jugement de Biden.
Il l'a vu, il l'a vérifié. Il dit d'ailleurs dans l'autre discours, mais les Américains n'ont pas toujours été là. Ils sont arrivés en 1917.
Mais heureusement qu'ils sont venus quand même.
Mais bien sûr, mais il y a une gratitude. Il a une admiration, il a un respect pour le peuple américain. Mais il connaît les dangers de la politique américaine qui sont fondés pour lui sur l'idée qu'ils ne connaissent pas précisément ce que lui connaît. Qu'ils ne connaissent pas les peuples auxquels ils pensent, enfin ils disent qu'ils s'intéressent et dans le destin desquels ils interviennent, comme ils sont intervenus en Irak ou ailleurs. Donc il y a un risque de déstabilisation qui vient. Au fond, il rejoint d'ailleurs une chose que Jacques Chirac m'avait souvent dit, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à redouter des vieilles civilisations, des vieux pays qui avaient une expérience et tout à redouter de pays qui étaient un peu plus dans l'improvisation. C'est exactement la vision qu'a de Gaulle des États-Unis.
Alors que le président Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi, chef et symbole des trois grands pays qui sont les fondateurs et les piliers de l'Europe, soient allés ensemble sur place affirmer leur soutien, c'est quand même quelque chose de fort.
Oui,
qu'on ne peut pas ne pas reconnaître.
En tout cas,
et que dans les livres d'histoire, quel que soit ceux qui font la fine bouche, il restera la photo dans le train de nuit, puis les images de Kiev et d'Irpin.
Oui, enfin la question est de savoir ce qui relève de l'ordre de la communication et ce qui relève de l'ordre de l'histoire. Et je pense que chez De Gaulle, je ne vois pas De Gaulle dans cette posture-là, mais parce que la question pour lui ne se posait pas, elle se serait posée avant, et oui. Il y aurait eu avant
le système
une manière
est
de déminer le terrain et de poser des problèmes.
Oui, alors les Ukrainiens ont donc une perspective et une garantie, on l'a entendu, c'est l'Europe. Les 3, puis les 27 s'en occupent et apparemment Zelensky est satisfait. Et de quoi est-il satisfait ? Emmanuel Macron l'a dit à Kiev avec ceux qui l'accompagnaient dans le voyage. Emmanuel Macron.
Tous les quatre, nous soutenons le statut de candidat immédiat à l'adhésion à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ce statut sera assorti, nous l'avons dit tous ensemble, d'une feuille de route et impliquera aussi que soit prise en compte la situation des Balkans occidentaux et du voisinage, en particulier de la Moldavie. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité des 27 pour ce Conseil européen si important. C'est un geste fort, rapide, attendu, d'espoir et de clarté que nous voulons envoyer à l'Ukraine et à son peuple.
Jean-Luc Barré, vous voyez qu'on ne parle plus de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN qui était à l'origine de la guerre. On ne le réclame plus pour le moment, même à Kiev, l'Ukraine dans l'OTAN. On peut
ça
dire
ça change rien un problème. Je pense que quand De Gaulle dit il faut construire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural en faisant en sorte que cette construction ne se fasse pas contre la Russie, c'est la question qui est posée aujourd'hui. Je veux dire, est-ce que le fait de faire... Et je suis pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Europe, ce n'est pas la question. Mais
même si la procédure est longue et exigeante. Oui.
Voilà, comment c'est perçu de l'autre côté? Parce que tout de même, il y a quand même un partenaire essentiel dans cette histoire, c'est la Russie. Et comment même l'avancée de l'OTAN, même si effectivement l'Ukraine ne rejoint pas l'OTAN, comment tout cela est perçu? Il faut bien savoir que dans la tradition russe, et amplifié d'ailleurs par le communisme, il y a ce complexe d'enfermement et presque d'encerclement. Et donc, évidemment, à partir de là, le conflit ne peut que durer. Et en tout cas, les tensions ne peuvent que durer. Et je pense que De Gaulle se serait appliqué à faire en sorte, lui qui considérait la Russie comme un partenaire essentiel pour la détente, peut-être même primordial, à faire en sorte que les choses évoluent dans un autre sens.
Oui, d'accord. Mais en attendant, il donnerait des armes, de l'argent pour la résistance, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut que la résistance continue à être présente. Et si un
jour... Je ne sais pas s'il aurait donné des armes, hein, rappelez-vous, oui. l'embargo sur les armes concernant Israël. Donc je ne suis pas sûr qu'il aurait donné des armes, mais il aurait manifesté, en tout cas...
Il y avait le climat, il aurait été obligé. Là, on ne peut pas réécrire l'histoire.
C'est naturel chez lui.
Et si un jour il y a une négociation, le moment venu, ce seront, il le dirait, les Ukrainiens eux-mêmes, en toute souveraineté, qui négocieraient avec Poutine ou la suite de Poutine.
Le rôle de la France, ce qui est important de bien comprendre, c'est que De Gaulle, à un moment donné, s'éloigne de l'Alliance Atlantique parce que, précisément, il considère que la France doit avoir son rôle d'intermédiaire. Et donc, il reconnaît à la France le rôle d'intermédiaire. Il aurait reconnu ce rôle entre l'Ukraine et la Russie.
Il avait prédit, je cite sa phrase, « Un jour, la Russie boira le communisme. Un jour, peut-être, la Russie boira-t-elle le régime de Poutine ?»
c'est possible, mais il avait aussi conscience d'une chose, c'est que la Russie, d'abord, n'était pas un pays comme les autres, et qu'un pouvoir, un tsar, d'une certaine manière, était peut-être logiquement l'homme qui était fait pour diriger la Russie, peut-être pas Poutine en l'occurrence.
Merci d'être venu, on parlera ensemble bientôt de De Gaulle.
Merci.
Isabelle, à vous maintenant.
Oui, merci beaucoup Jean-Pierre, merci à votre invité Jean-Luc Barré. Et demain, Jean-Pierre, vous recevrez Laurent Joly, il vient de publier un livre à lire impérativement, ça s'appelle La rafle du Veldiv et c'est chez Grasset. Tout de suite, l'actualité en bref, Elisa Lukavski.
Mise en place de la circulation différenciée à Paris ce samedi. Ça a commencé ce matin à 5h30 et ça sera en vigueur jusqu'à minuit. Décision prise en raison d'un épisode de pollution aux particules fines en Île-de-France alors que la France connaît une vague de chaleur intense. Seuls les véhicules munis d'une vignette critère de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler. 50 605 nouveaux cas positifs au Covid recensés en France entre les 16 et 17 juin. Le nombre de contaminations a doublé en 15 jours et une nouvelle vague semble se dessiner à l'horizon. Tombé à moins de 18 000 cas quotidiens fin mai, le rythme des contaminations sur 7 jours est passé à plus de 30 000 au 12 juin et a dépassé les 38 000 cas mercredi. Et puis le décès d'un des grands noms du cinéma français hier, Jean-Louis Trintignant, s'est éteint à l'âge de 91 ans. Figure majeure du cinéma et du théâtre, l'acteur aux 120 films avait travaillé avec les plus grands réalisateurs. Parmi ses films marquants, on retiendra Un homme et une femme et Dieu créa la femme ou encore Les plus belles années d'une vie, sa dernière apparition sur grand écran.
Dans un instant, la matinale week-end continue avec Face à Bigot. Face à Guillaume Bigot ce matin, ce sera Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Au programme, bien sûr, cette chaleur accablante, éprouvante, harassante, soleil de plomb sur toute la France avec un pic aujourd'hui. Nous parlerons aussi de l'Union européenne qui dira la semaine prochaine si elle accepte que l'Ukraine soit candidate à une adhésion. Et puis nous reviendrons sur un nouveau refus d'obtempérer à Paris hier. A tout de suite.
Votre matinale info sur Europe 1.
Isabelle Moreau.
Bientôt 21 minutes à l'instant. Merci d'être avec nous dans la matinale week-end. C'est l'heure de Face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot.
Bonjour Isabelle Moreau, bonjour à tous.
Politologue face à vous ce matin. Guillaume Perrault, bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes rédacteur en chef de Figaro Vox. On a une demi-heure pour débattre ensemble des grands thèmes de l'actualité de ce samedi 18 juin. Est-ce que vous êtes en forme? C'est un peu la question qu'on a envie de poser à tout le monde de bon matin parce que la nuit a été particulièrement chaude. Ça n'a pas été trop difficile pour l'un et l'autre?
Alors j'ai la chance d'être thermorégulé, d'habiter dans un endroit pas trop chaud et surtout, c'est plutôt la nuit qui a été courte, mais elle était pas trop chaude.
Non. La nuit a été courte effectivement. Guillaume Perrault, pas trop dur?
Ça va, pas trop dur. Je
bon,
remercie.
Alors c'est bien, il y en a qui tiennent le choc. C'est une chaleur en
et
tout
vous,
cas.
Et vous, Isabelle, ça allait?
À peu près. En tout cas ici, l'atmosphère est climatisée, et c'est plutôt très agréable. On essaye d'en profiter au maximum. Ce n'est hélas pas le cas pour tout le monde avec cette chaleur accablante, ce pic attendu aujourd'hui, des températures qui vont grimper par endroits jusqu'à 42 degrés. Karine Durand, merci d'être avec nous. Les records n'en finissent pas de tomber.
Et oui, on va juste revoir un instant la carte de vigilance de Météo France qui est historique et on n'a jamais eu autant de départements en vigilance rouge au cours d'un mois de juin. Cette canicule, c'est la plus précoce jamais enregistrée, mais elle est particulièrement intense. On a quand même 14 départements en vigilance rouge essentiellement à l'ouest et 56 en orange. Bref, c'est 80% du pays qui est concerné aujourd'hui, c'est le pic de chaleur. Mais hier, on a eu des températures déjà exceptionnelles. On a eu jusqu'à plus de 42 degrés localement, 42 degrés 8, quasiment 43 dans l'Hérault, 42 également du côté dans l'Aude, 41 dans le Gard et également des records du côté de Carcassonne entre autres, on a eu 40 degrés 7 quand même. Aujourd'hui, c'est la journée la plus chaude, des valeurs extrêmes attendues en raison de l'effet de feune, ce vent qui passe au-dessus des montagnes et qui donne un coup de chaud dans les Pyrénées notamment, eh bien on pourra peut-être même monter au-dessus des 42, ça veut dire possiblement très localement 43 voire même éventuellement 44, on va battre encore plein de records de chaleur mensuelle dans des villes comme Biarritz, comme Bordeaux, comme Nantes et même pour Rennes, y compris pour la Bretagne, où on attend 38 degrés. À Paris, on va sans doute battre le record également de chaleur pour juin. On prévoit 39, limite 40 degrés à Paris cet après-midi. On va battre a priori le record du 26 juin 47 où on avait eu 37 degrés 6, donc c'est vraiment historique.
D'un mot, Karine, rassurez-nous, ça va se calmer.
Ça se calme dès demain progressivement. À l'est, ça résiste encore un petit peu jusqu'à lundi, voire mardi. Et mercredi, c'est fini, plus de forte chaleur.
Merci beaucoup, Karine. Guillaume Bigot, ces vagues de chaleur se répètent, elles sont de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Et c'est assez conforme, finalement, aux projections qui étaient réalisées il y a déjà des années, maintenant, par des experts du changement climatique.
Oh, je ne m'aventurerai pas sur ce terrain, qui est un terrain infiniment complexe, mais... Il y a deux choses qui m'apparaissent. D'abord, on a installé depuis 2003 ces systèmes d'alerte canicule.
La canicule meurtrière de 2003.
Alors, parce que ça a fait 15 000 morts, parce que ça a surpris tout le monde, parce que les services, notamment gériatriques, etc., n'étaient pas prêts à faire face à cette vague de chaleur, surtout pendant l'été où les parents ne pouvaient pas s'occuper de leurs personnes âgées. Et donc, depuis lors, on se réfère depuis les périodes canicules, etc. En fait, quand on regarde, parce que ça... Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, j'essaie de prendre un peu de recul, je trouve que c'est très révélateur d'une époque qui aime beaucoup à créer de l'angoisse, en fait. Il y a des alertes maintenant attentats, il y a des alertes sanitaires, il y a des alertes climatiques, on vit dans un état d'alerte permanent, finalement. Mais quand vous regardez, alors bon, en 1859, il a fait 44,8 degrés. Voilà. En 1900, il a fait 41 degrés, en juin, hein, à peu près à la même époque. Il a fait en 1911 encore plus chaud qu'aujourd'hui, en 1921, en 1988, en 1986, en 2001, enfin, j'ai pas toutes les données, mais j'ai regardé un peu, 2003. Donc, c'est pas pour relativiser ce qui se passe. Je dis simplement que, numéro un, c'est pas la première fois qu'il fait aussi chaud en France, y compris au mois de juin, mais avant qu'on ait ces alertes canicules. Ça, c'est le premier point. Alors, effectivement, il y a bien un phénomène parce que c'est plus à l'ouest et ça dure plus longtemps. Ça c'est vrai, c'est probablement révélateur de notre mécanisme. Mais de là à penser que ça y est, on rentre, vous voyez, parce que le narratif, c'est ça, c'est que la semaine prochaine, c'est la fin du monde. Bon, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Deuxième chose, enfin, si j'ai une petite idée sur le fait que la semaine prochaine, on sera encore là, mais enfin bon. Espérons-le. La deuxième chose, c'est que j'ai vu, et ça, je voulais en parler, qu'il y a un arrêté préfectoral qui a été pris, je crois, dans le Tarn pour empêcher un rassemblement en marge d'un match de rugby. Et là, à mon avis, on met le doigt dans un engrenage qui est terrifiant. C'est-à-dire que demain, l'État, qui n'est plus Big Brother, comme on disait au XXe siècle, mais Big Mother, c'est-à-dire qui est là pour nous protéger de nous-mêmes. Souvenez-vous, les petits mots qu'il fallait se faire pour aller acheter du pain pendant la crise sanitaire. Là, si la température est trop élevée, peut-être que nous aurons l'instruction de l'État de ne pas sortir de chez nous.
Est-ce qu'on est une société d'ultra-vigilance
du principe de précaution.
Oui.
De la même façon que quand il y a un peu de neige, les Québécois sont morts de rire parce que les avions sont bloqués, etc. Mais les gens qui habitent au Caire, les gens qui habitent à Phoenix, dans ces villes qui sont des grandes concentrations urbaines, il est absolument banal qu'il fasse ces températures, mais pas une ou deux fois comme ça en mode alerte canicule. Non, ça dure des mois et des mois, et l'être humain s'est adapté. L'être humain s'adapte à beaucoup de choses.
L'originalité, si je puis dire, c'est que ça ne nous arrive pas à nous. Normalement, on est dans un...
ça arrive rarement.
C'est ce que disait Karine tout à l'heure.
Ça arrive rarement.
C'est vraiment, on n'a jamais eu une canicule aussi tôt. En général, c'est fin juin, c'est pas mi-juin.
Voilà. C'est ça, c'est la précocité de l'événement. Guillaume Perrault.
Oui, ces épisodes de canicule, d'après les experts qui, évidemment, ne sont pas tous d'accord, ils ne sont pas sans précédent, en effet. Et Guillaume Bigot a raison de rappeler ces précédents. Néanmoins, ils semblent s'accélérer, gagner en intensité et en fréquence. Donc, c'est ça qui est le discours dominant chez les experts. Alors, en effet, il faut éviter le discours apocalyptique. Il y a des gens qui aiment se faire peur et la peur se transmet. Elle s'entretient dans des commentaires. Vous avez certains experts qui font penser à ce personnage de Tintin qui s'appelait Philippe Pulus, vous savez, qui disait avec son gong « Demain, c'est la fin du monde ». Il y a vraiment des gens, qui, y compris des experts dont on attendrait de la pondération, de la rigueur dans l'expression, qui entretiennent cette peur. Cela dit, le problème est réel. Et le traumatisme des politiques, c'est ce qui est arrivé au ministre de la Santé en 2003. Il s'appelait Jean-François Mattéi, rappelez-vous. Il s'est fait interviewer dans sa résidence secondaire devant une piscine. Et sa carrière politique a été flinguée, a été carbonisée parce qu'on attendait, dans cette époque de compassion et d'émotion obligatoire, qu'il soit au chevet des EHPAD, qui montre sa sollicitude. Et depuis, les hommes politiques en rajoutent Et notre première ministre a dit que le gouvernement allait protéger les Français de la canicule, ce qui en effet est un peu étrange, comme si on avait un nouveau Covid.
Et il y a un énième numéro vert qui s'est mis en
voilà,
place.
Comme si la première ministre était une maman. Est-ce que vous avez buvé de l'eau, attention, attention les enfants, à bien vous hydrater, attention à bien apporter votre goûter. Non, nous ne sommes pas des enfants de 8 ans. Il faut bien expliquer à ceux qui nous gouvernent, nous ne sommes pas des enfants de 8 ans, nous ne sommes pas tous en EHPAD un peu gaga, et nous ne sommes pas tous non plus des enfants. Nous sommes des citoyens adultes, c'est nous qui avons le pouvoir, on est responsable. Donc je pense que les gens savent que quand il fait chaud, il faut s'hydrater. Ce n'est pas la peine de le répéter 4 fois par jour. Vous voyez, il y a vraiment... Et alors là, on ne se rend pas compte parce que la Chine étant devenue l'une des puissances les plus hégémoniques sur le plan économique, c'est inévitable que les puissances hégémoniques, de manière assez sournoise d'ailleurs, assez insensible, donne le ton. Vous voyez, donne le ton sans même qu'on s'en rende compte. On se chinoise, on se cynise sans même nous en rendre compte. C'est... avec un État qui est là pour faire le bien à notre place.
C'est l'illustration, oui, d'une société qui ne tolère pas le moindre risque.
Attention, non, imperméable. Ceci, le risque, mais il y a des bons risques et des mauvais risques. Vous avez 260 000 coups et blessures chaque année. Bon, bah ça, surtout, c'est fait par des migrants, c'est pas très très grave. En revanche, il y a des gens qui tombent, qui n'ont pas de brumisateur, alors c'est très grave. Donc l'État ne va pas stopper la violence, pourtant c'est son métier de base, mais l'État va distribuer des brumisateurs. Pourquoi ? Parce que l'État ne veut pas, comme l'a rappelé Guillaume Perrault, qu'il y ait une mauvaise image, un ministre à côté d'une piscine pendant que des gens âgés meurent. Bon, en réalité, quand on regarde de plus près, évidemment, c'est horrible pour ces familles. En plus, les gens âgés sont morts dans l'indifférence et alors loin des leurs. Enfin, c'était poignant cette affaire. Mais en fait, les médecins ont bien expliqué aussi que c'est des gens. Enfin, on l'a vu sur les courbes de mortalité, c'est des gens qui sont morts 2 ou 3 mois avant la date où ils auraient dû mourir.
Il est 8h30. Dans un instant, tout de suite même, le rappel des principaux titres de l'actualité avec Elisa Lukewski qui va faire un point complet sur la situation et probablement aussi nous refaire un point sur la canicule, Elisa.
Ce samedi sera le jour le plus chaud de l'épisode caniculaire que nous sommes en train de traverser. Les 2/3 du pays sont en vigilance rouge ou orange et Météo France s'attend à de nouveaux records de température pour un mois de juin. Elle pourrait atteindre en moyenne 42 degrés dans le sud-ouest. 39 degrés sont prévus à Paris. Hier, elles se sont rapprochées des 43 degrés dans l'Hérault ou encore dans l'Aude. Le propriétaire du site pornographique Jackie et Michel a été mis en examen hier pour complicité de viol et placé sous contrôle judiciaire dans une enquête sur des soupçons de dérive dans le porno amateur. Il a été mis en examen pour complicité de viol et traite d'êtres humains en bande organisée. Et puis du rugby et l'équipe de Castres qui décroche son ticket pour la finale du top 14. Les Castrais ont dominé Toulouse hier en demi-finale, 24 à 18, notamment grâce à un essai de Dumora en fin de match. Ils disputeront donc la finale du top 14 la semaine prochaine au Stade de France face au vainqueur du match de ce soir. Ça sera entre Montpellier et Bordeaux-Bègles.
Merci Elisa. Un nouveau refus d'obtempérer hier, encore un. Ça s'est passé cette fois dans le 18e arrondissement de Paris. Des policiers ont été percutés et blessés par le chauffard. Le suspect est en fuite. Alexis Vallée.
Lorsque 3 policiers en civil ordonnent à un automobiliste de s'arrêter. L'homme, au volant d'une Peugeot 508, refuse d'obtempérer et accélère. Dans sa fuite, il a blessé les 3 fonctionnaires qui ont ouvert le feu. Les témoins sur place ont été effrayés.
J'ai entendu plein de monde crier, et j'ai eu très peur, je croyais que c'était rien. Et moi, j'ai commencé à baisser le rideau parce que j'ai eu très peur.
Moi, j'ai entendu un coup de feu et j'ai fait rentrer des touristes dans ma boutique, elles étaient en panique. Et j'ai fermé la porte à clé, je leur ai dit, on ne sait jamais.
Je trouve ça scandaleux qu'il y ait des balles qui soient tirées alors qu'il y a la population dehors avec des enfants.
En moyenne, les forces de l'ordre recensent un refus d'obtempérer toutes les 15 à 20 minutes. Et dans ce genre de situation, les policiers demandent plus de précisions sur la méthode à employer.
Il faut des décisions claires, politiques. Soit on nous donne l'autorisation d'interpeller et de stopper ces véhicules, soit on nous dit systématiquement, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, vous le laissez partir et croyez bien qu'on va le laisser partir.
Les 3 policiers blessés légèrement ont été pris en charge par les pompiers. L'automobiliste, lui, est toujours en fuite.
Alors c'est une série noire, j'ajoute qu'à Juvinac, c'est près de Montpellier, un refus d'obtempérer a eu des conséquences dramatiques avant-hier puisque le véhicule qui fuyait les forces de l'ordre a percuté une voiture frontalement, bilan 2 morts, 5 blessés, dont 3 dans un état grave. Et c'est une information qui nous a été confirmée par le CIRPA, le service d'information et relations publiques des armées. On a entendu Guillaume Bigot, ce policier, dire qu'il n'y avait pas de ligne claire. Soit on intervient coûte que coûte, quoi qu'il arrive finalement, soit on laisse filer, auquel cas la police est accusée de laisser le faire. On a l'impression qu'ils sont dans un vide, dans un flou total.
En tout cas, vous l'avez dit en introduction, il se passe quelque chose. Parce que entre Montpellier, où il y a eu des morts, entre le Pont-Neuf, entre ce qui est arrivé aussi déjà dans le 18e arrondissement, on a l'impression maintenant, dans la Vienne, aussi dans le département de la Vienne, on a l'impression qu'en effet, ça se répète trop pour qu'il ne se passe pas quelque chose. Alors, que se passe-t-il ? Il peut se passer soit qu'il y a de plus en plus de volonté de forcer des barrages de police, voire... Parce que forcer un barrage de police, c'est déjà une chose, mais... Je rappelle qu'un véhicule peut être une arme par destination et que les policiers doivent faire un usage maîtrisé et proportionné de la force. Et en l'occurrence, ils n'ont droit de faire feu que pour se protéger. Donc soit on a de plus en plus de cas, je n'ai pas la documentation qui indique de manière de plus en plus rapprochée, parce que ce n'est pas un cas isolé, mais là, il y en a beaucoup en très peu de temps, de gens qui veulent manifestement rouler sur des policiers, blesser des policiers en prenant la fuite en plus, soit on a un changement de doctrine et on a l'autorisation qui est donnée ou des consignes qui ont été données, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations à cet égard, pour dire, écoutez, vous pouvez riposter quand vous êtes directement menacé. Je ne sais pas, c'est soit l'un, soit l'autre, mais grosso modo, il y a un phénomène de ce type qui est en train de se dérouler. Il faut rappeler une chose, c'est que les policiers n'ont le droit de tirer que lorsqu'ils se sentent directement menacés.
Ils sont soumis au même principe de légitime défense que
évidemment,
les citoyens.
Et c'est heureux d'ailleurs. Et c'est heureux. Donc qu'ils fassent tout pour empêcher quelqu'un de refuser d'obtempérer, de s'arrêter, de contrôler ses papiers, etc. C'est une chose. Mais ensuite, on leur demande, j'y mets, de proportionner l'usage de la force au risque qu'ils prennent pour eux-mêmes, au risque qu'ils prennent aussi pour les gens qu'ils veulent appréhender et au risque qu'ils prennent pour l'ensemble de la population. Donc il ne faut pas laisser penser que la police tire comme ça sur n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, même si ensuite, au cas par cas, il faut examiner les faits.
Guillaume Perrault, vous êtes frappé par cette multiplication de ces refus d'obtempérer auxquels on assiste visiblement ?
Oui, je le suis. Chacune de ces affaires demande une appréciation au cas par cas. C'est important de le rappeler. Que dit la loi ? Effectivement, l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre est extrêmement encadré. Elle n'est autorisée qu'en cas, je cite, « d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ». Hein ? On ne peut pas être plus restrictif. Absolue nécessité et, les conditions sont cumulatives, de manière strictement proportionnée. À vrai dire, quand on lit cette phrase, ça ne me choque pas. Ça paraît assez naturel que l'usage des armes à feu soit encadré pour les forces de l'ordre. Le problème, c'est l'interprétation par les juges d'instruction, tout au moins par certains juges d'instruction, de ces termes. Je vous donne un exemple précis. Dans la Vienne, l'affaire de la BAC, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un délinquant qui a traîné un policier sur plusieurs mètres après un refus d'obtempérer. Le collègue de ce policier, constatant que la voiture faisait machine arrière et risquait d'écraser volontairement ou non son collègue, ouvre le feu, rate sa cible. Et ce policier est mis en est l'objet d'une enquête, pour violence volontaire. Ce policier qui a fait feu. Alors, le délinquant, lui aussi, il est mis en examen. Mais on a l'impression que le magistrat instructeur a renvoyé dos à dos, et c'est ça que les policiers ne supportent pas, a renvoyé dos à dos l'agresseur et le policier en position de légitime défense d'après eux. C'est donc quand même très grave, parce que si ça se multiplie, on l'a bien vu ce que disait ce syndicaliste, qu'est-ce qui va se passer ? Pas de vagues, pas d'ennuis, pas de risques, laissons-les filer.
Un peu comme c'est le cas pour les rodéos urbains, par exemple, où la question se pose sensiblement de la même manière.
Voilà, et donc...
La peur de l'émeute.
Je ne vois qu'une solution, c'est que le législateur accepte un assouplissement prudent et encadré de cette disposition législative pour qu'il y ait une sécurité juridique pour les policiers ou les gendarmes. Les gendarmes sont plus protégés par leur statut militaire, c'est surtout les policiers pour qui ça pose problème. Je ne réclame pas un droit, je ne suis pas partisan du Far West.
Mais un assouplissement raisonnable.
Il faut que la commission des lois de l'Assemblée, du Sénat, auditionne tout le monde, travaille en profondeur et qu'on arrive à assouplir un peu ça pour que la marge de manœuvre des juges d'instruction respecte un principe législatif qui soit plus réaliste, parce qu'il faut voir qu'on vit dans une société où le contrôle des juges, dans tous les domaines, est de plus en plus poussé. Juste un exemple, on en est au point où il faudrait réviser la Constitution pour assurer la sécurité juridique du règlement intérieur des piscines si on voulait interdire le burkini sans risque. Donc, ça vous dit le degré de détail de méticulosité du contrôle du juge dans tous les actes de notre vie aujourd'hui.
Guillaume Bigot, ça soulève aussi la question de la formation des policiers.
Ça, c'est sûr, mais vous savez, quelles que soient les formations que vous recevez, et je pense que les formations mériteraient d'être beaucoup renforcées. Ça coûte cher de tirer aussi, les munitions coûtent cher, et on sait bien que tout ça est en situation de stress budgétaire, même si les budgets ont été récemment augmentés, c'est très loin d'être suffisant. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que c'est vrai que personne... En fait, ça fait vraiment penser, vous savez, à cette formule sur l'Alsace-Lorraine. Pendant de 1871 à 1914, les Français disaient « Pensez-y toujours, n'en parlez jamais, parlant de l'Alsace-Lorraine ». Là, c'est pareil, on y pense toujours. Quelles que soient les positions politiques des uns et des autres, quelles que soient nos recommandations, nos préconisations pour régler ce problème, c'est la fameuse formule du ministre de l'Intérieur qui est partie. Monsieur Gérard Collomb, il a dit les gens vivent côte à côte, de plus en plus, ils vivent face à face. On voit bien qu'un phénomène se dessine qui consiste à non plus avoir de la criminalité classique, une criminalité, je rappelle, qui a toujours existé, qui a toujours essayé éventuellement de violer des barrières de police, mais qui, grosso modo, fuit la police. Et ce sont des gros gangsters qui, ils sont pris dans une nasse, osaient se confronter à la police. Sinon, la société française, comme toutes les sociétés démocratiques, fonctionnait sur la peur du gendarme. Là, on a la peur des gendarmes. Pourquoi on a la peur des gendarmes ? Parce que la police est considérée comme une bande ennemie. Donc, on le sait bien, il faut relier les points. Le Stade de France, les attaques de commissariats, la peur des émeutes, le fait de ne pas appréhender les rodéos urbains. Si vous voulez, il y a un calcul qui est fait depuis 30-40 ans qui consiste à dire on veut préserver la paix civile au prix, grosso modo, du déshonneur. Voilà. Et le périphérique, ou ce qui ceinture les grandes villes, va nous protéger de cette violence endémique. Je pense qu'on aura et on récoltera et le déshonneur et malheureusement la guerre civile si on continue comme ça.
Et autre illustration de ces violences et vols à l'arraché, désormais le quotidien aux abords du Trocadéro, une place qui est emblématique, qui offre un point de vue exceptionnel sur la tour Eiffel, mais où les touristes se font régulièrement détrousser, téléphones, montres, chaînes, bracelets, tout y passe, même pour les riverains. La préfecture de police a mis en place un plan de sécurisation. Reportage Quentin Gribel avec Loïc Tontat et Florent Ferraud.
Sur la place du Trocadéro, quand le soleil se couche, nombreuses sont les personnes à se sentir de plus en plus en insécurité, comme ce riverain.
Il y a beaucoup de vols, il y a beaucoup de arrache à la main, de portefeuilles, de sacs de dames. On parle même qui pique les chiens ici. Hein. Ça devient un peu compliqué.
Mais la cible prioritaire des délinquants reste les touristes.
J'étais avec des amis et trois adolescentes nous ont abordés. On pensait avoir une discussion tranquillement. Et quand elles sont parties, j'ai mis la main dans mon sac et je me suis rendu compte que mon portefeuille avait disparu.
Car les groupes de jeunes errant aux alentours de la tour Eiffel sont de plus en plus nombreux. Et pour la plupart, ce sont des mineurs étrangers isolés.
Le Trocadéro sont en train de devenir le nouveau Barbès de Paris. La semaine dernière, il y a eu plus de 15 interpellations en deux nuits sur des agressions pour des montres, des chaînes, des téléphones portables, parfois même jusqu'au couteau pour que la victime soit détroussée de manière à ce que ces voyous fassent de l'argent facile.
Pour endiguer ce phénomène, la préfecture de police a mis en place depuis mars un plan de sécurisation renforcé autour du Trocadéro. Des effectifs de la brigade anticriminalité de nuit interviennent notamment en renfort.
Guillaume Bigot, on parle là d'une vitrine finalement de la France, la place du Trocadéro, la tour Eiffel, c'est mondialement connu. Et c'est pour ça que les touristes s'y précipitent, peut-être pas pour si longtemps.
C'est vrai. Et là aussi, prenons un peu de recul, il y a toujours eu des pickpockets dans le métro, toujours des pickpockets. Quand vous avez une affluence de touristes, vous avez une affluence de pickpockets, ça n'a rien de particulier. Alors qu'est-ce qui est particulier ? Moi, vous dire, dans les années, fin des années 80... on était avec des bandes, enfin moi j'étais dans des bandes de gens qui habitaient dans les HLM du 93 et les ports de Paris, et on allait déjà au Trocadéro détrousser les touristes. Donc c'est pas très vieux, enfin cette histoire est très ancienne plutôt, et ça a toujours existé. Simplement, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait pas du tout ces vendeurs à la sauvette, et il n'y avait pas les fameux mineurs isolés. Voilà. Ça change tout. Et je pense que dès cette époque, dès les années 80, la France avait décidé un peu, dans un dosage entre l'ordre public et les droits de l'homme, d'appuyer vraiment à fond sur la pédale de l'accélérateur des droits de l'homme et de lever complètement le frein sur, disons, sur l'ordre public. Or, pour un grand pays comme la France, Ce n'est pas possible de donner cette image. Il y a vraiment un problème d'image aussi, en dehors de la réalité de la délinquance du pays. Ce n'est pas possible quand vous avez quand vous avez le monde entier, parce que le monde entier vient à Paris. La population de Paris, elle fait plus que doubler, tripler, je crois. C'est l'une des premières, si ce n'est la première destination touristique du monde. Quand vous allez à Times Square, quand vous allez devant la Place Rouge, quand vous allez devant la Place Tiananmen, quand vous allez à Times Square, Times Square à New York, oui, lorsque vous allez en Grande-Bretagne, à Piccadilly, ces grands pays font en sorte, en raison de la présence de caméras, en la raison d'une sécurisation très bien pensée et très organisée, qu'au moins dans ces zones, alors c'est peut-être un cache-misère, peut-être que ça veut dire qu'il y a quand même de la délinquance ailleurs, mais au moins là où vont les touristes, ils n'ont pas cette expérience épouvantable d'être rentrés dans une sorte de favelas avec des gens qui leur vendent des bouteilles d'eau, qui leur font les poches en même temps, avec des tas de bandes dans tous les sens qui les escroquent. Enfin, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans.
Alors, au-delà de la question de la violence, qu'on a bien compris avec Guillaume Bigot, il est essentiel de préserver l'image de la France, ce pays hautement touristique, Guillaume Perrault.
Je crois qu'il est primordial de lutter contre ce phénomène de bandes partout en France, parce qu'il y a beaucoup de Français...
Ça prendra plus de temps que de rendre à peu près sécurisé la place du Trocadéro.
Mais vous comprenez, il y a beaucoup de Français qui ne vivent pas dans cette zone du Trocadéro et qui en pâtissent de la même manière et qui donc ont droit à l'attention des pouvoirs publics.
Oui, c'est pas qu'une histoire d'image.
Et de la même manière. Il y a beaucoup de délinquants. Bon, il y a un problème, c'est typique du laxisme français en matière d'ordre public. Il y a beaucoup de délinquants en garde à vue qui se disent mineurs étrangers isolés parce qu'ils savent que le droit français va les considérer du coup comme des personnes vulnérables à protéger. Ça, c'est du coup, c'est utilisé comme une faille par des délinquants. Le parquet de Paris en 2020 a communiqué et a estimé qu'il y avait une surreprésentation des mineurs étrangers isolés parmi les mineurs délinquants, mis en cause dans des affaires de délinquance. De façon spectaculaire, hein. Pour 2020, ils annonçaient le chiffre de 75% de mineurs étrangers isolés parmi les affaires de délinquance des mineurs. Bon, donc la question que je pose, elle est assez simple. Tous les pays de l'Union européenne qui sont attachés à certaines libertés publiques ont le souci de défendre les vrais mineurs étrangers isolés, les vrais. Comment se fait-il,
ils sont très peu nombreux.
Comment se fait-il qu'ils ne semblent pas exposés au même phénomène de bande? C'est parce qu'en France, il y a une puissance d'inertie énorme à surmonter. Quand on veut agir concrètement, on n'a pas le souci d'agir concrètement parce que c'est trivial, c'est vulgaire. On préfère les grands discours, les envolées sublimes, les programmes pour changer la vie, plutôt que de s'attaquer concrètement au problème. Un exemple, il y a des mineurs, des gens qui prétendent au statut de mineur étranger isolé qui font le tour des départements de France jusqu'à ce qu'il y ait un conseil départemental qui leur reconnaisse ce statut. Il a fallu 3 ans entre un amendement législatif et l'application concrète pour qu'un fichier soit mis à disposition des conseils départementaux pour que, lorsque une personne est déboutée dans un département, un autre département ne soit pas tenu de recommencer la même procédure. 3 ans pour que ça entre en vigueur. C'est ce genre d'enlisement administratif, politique et juridictionnel qui explique l'état du pays.
Dans un instant, on fait un point sur la guerre en Ukraine. Mais d'abord, c'est le rappel des titres, Elisa Lukavski.
14 départements en alerte rouge canicule, un niveau historique jamais en France. Autant de départements avaient été placés à ce niveau d'alerte au mois de juin. L'alerte rouge canicule s'étend sur le sud-ouest de la France, partant de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Vienne pour aller jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne. 3 policiers blessés et un chauffard en fuite à la suite d'un refus d'obtempérer hier soir à Paris. Ça s'est passé dans le 18e arrondissement à l'angle des rues Burke et Durantin. 3 agents ont été percutés par le chauffard et sont légèrement blessés. Le suspect est activement recherché par les autorités. Plus de 800 plaintes ont été déposées en France pour des faits de piqûres sauvages. 1098 victimes ont été recensées au 16 juin. Mais à l'heure actuelle, aucune des analyses effectuées n'a mis au jour la présence de GHB. Le mystère reste donc complet autour de ce phénomène.
Merci Elisa. Bruxelles recommande donc d'accorder à Kiev le statut de candidate à l'Union européenne. Réponse la semaine prochaine, à l'occasion du sommet européen des 23 et 24 juin. C'est un vrai test, déjà, pour commencer, savoir si les 27 seront tous d'accord. En attendant, Volodymyr Zelensky estime qu'il s'agit d'un acquis historique. On l'écoute et on en parle après.
Nous sommes maintenant à un pas du début d'une intégration à part entière dans l'Union européenne. Nous avons une conclusion positive de la Commission européenne sur la candidature de l'Ukraine. C'est un acquis historique pour tous ceux qui travaillent pour notre État et il ne reste plus qu'à attendre la décision du Conseil européen la semaine prochaine. La Russie elle-même a tout fait pour détruire tout lien avec l'Ukraine. Eh bien, nous faisons tout pour que nos liens avec l'Europe soient aussi forts que possible.
Guillaume Bigot, il y a malgré tout beaucoup de si. Si les 27 sont d'accord, si l'Ukraine entreprend toutes les réformes en profondeur demandées, notamment sur la corruption, est-ce que c'est donner finalement de faux espoirs ou donner juste une image?
Vous savez, c'est la corruption, mais c'est aussi la violence politique. Monsieur Zelensky a fait assassiner des gens, on le sait. Les Pandora Papers montrent qu'il a beaucoup d'argent volé, lui, à l'étranger, personnellement. Alors, il ne faut pas le dire, parce que c'est un héros, donc je vais peut-être me faire des tonnes d'ennemis, mais c'est pourtant un fait. Monsieur Poutine est bien pire encore, mais ce n'est pas le sujet. Et on comprend que la démocratie ukrainienne, elle est quand même, quand on dit perfectible, enfin, elle est marquée par des phénomènes de violence, par des phénomènes d'intimidation, par le fait que des chaînes de télévision, des journaux sont interdits. Enfin, on n'est pas du tout au standard de l'Union européenne. Ceci étant dit, bon, on comprend bien les réticences de l'Union européenne parce que les discussions, ça ne date pas d'hier. Dès le lendemain de l'indépendance de l'Ukraine, ça personne ne le rappelle, en 1994, puis en 1998, ça a été le cas tous les deux, tous les trois ans, il y a eu des sommets, des réunions à n'en plus finir entre les représentants de l'Union européenne, les représentants de l'Ukraine. Tout le monde a joué à la dinette en donnant, en accordant des statuts de partenariat oriental, des statuts de libre-échange, etc. Donc on a déjà beaucoup avancé, l'Union européenne a déjà beaucoup avancé avec l'Ukraine, ça ne date pas d'hier. Là, on va dire, on est passé dans une antichambre qui permettrait dans 10 ou dans 15 ans, si l'Ukraine se conforme à 94 000 pages de cahier des charges ISO 9001, d'arriver finalement à une adhésion. On est très loin du compte. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est quoi? C'est deux choses. D'abord, la situation est historique. Ce pays, qui encore une fois n'est pas du tout un modèle de démocratie, contrairement à ce qu'on nous raconte, est tout de même un pays qui, en droit international, a vu ses frontières violées avec des gens écrasés sous les bombes. Et il y a un discours qui consiste à dire ce sont les valeurs de l'Europe qui sont bombardées actuellement par Vladimir Poutine. Donc là, on se dit l'Europe qui, depuis son origine, a dit, on a entendu 50 fois, on aurait dû commencer par la culture, on aurait dû commencer par la politique. Finalement, on a fait un grand marché avec du libre-échange, un peu de monnaie, un peu d'aide pour les d'aide économique. Mais grosso modo, ce n'est pas ça qu'on aurait dû faire. On aurait dû avoir une arme, on aurait dû avoir une puissance militaire, on aurait dû avoir défendre des valeurs. Donc là, vous avez une occasion historique en or. C'est ce que les Grecs appellent le kairos. Là, vraiment, tout est aligné. Là, c'est le moyen de montrer que l'Europe est autre chose qu'une sorte de si vous voulez, de machine de Shadok, d'un conglomérat, pour parler comme Hubert Védrine, un conglomérat de bisounours qui vivent dans un monde de Jurassic Park. Et que là, l'Europe aurait pu dire, bon, bah, écoutez, on oublie cet aspect qui est important, administrativo, juridico, technique, pour fabriquer une zone de libre-échange dans laquelle on va, comme des petits poussins, se serrer les uns les autres, espérons qu'il n'y ait pas de guerre. Non, on a bien compris, on est dans le monde réel, il y a la guerre. Donc, nous, on vous admet, pour votre courage, on vous admet rapidement. Mais ce n'est pas ça du tout qui s'est passé. Donc, conclusion, l'Europe est vraiment un paralytique historique.
Guillaume Perrault.
C'est une décision prise, qui va être prise sous la pression des opinions européennes et de l'émotion. Parce que les Européens ont mauvaise conscience de voir les Ukrainiens sous les bombes. Ils ne veulent pas se battre, on ne va pas déclencher une troisième guerre mondiale avec la Russie. Donc la position prudente qui était défendue par les Français, par les Allemands et par les Italiens, qui, et ce n'est pas un hasard, faisait partie des 6 pays d'origine de la CEE en 57.
La communauté économique.
Oui, la fameuse CEE. Et finalement, ces 3 pays, Berlin, Paris et Rome, ont cédé à la pression générale, à la pression de l'émotion, de leurs opinions, qui les accusaient de ne pas soutenir assez l'Ukraine, ce qui, à mes yeux, était tout à fait injuste. C'était tout à fait injuste. Ils avaient le droit de conserver une appréciation autonome et souveraine. Et finalement, Zelensky impose son point de vue, impose son agenda, ça va créer de l'amertume de la part des pays comme la Serbie, qui ont le statut de pays candidats, mais qui patientent depuis des années et qui craignent de voir l'Ukraine avoir un traitement de faveur. Ça va poser énormément de questions concrètes, mais tout raisonnement froid est balayé par la mauvaise conscience que nous éprouvons face à ces voisins qui sont sous les bombes russes.
Il nous reste...
Soit les soi-disant valeurs autres que mobilières et financières de l'Union européenne sont attaqués en Ukraine. Et dans ce cas, évidemment, il faut se mettre à la hauteur des événements. Voilà, mais c'est manifestement trop demandé à l'Union européenne, qui reste une organisation technocratique.
Il nous reste, hélas, une petite minute seulement. Et c'était impossible pour nous de ne pas évoquer ce très grand acteur, cet immense acteur, Jean-Louis Trintignant, qui nous a quittés hier à 91 ans. Il a marqué le cinéma français avec son jeu tout en finesse. Alors, les unes de journaux sont très révélatrices. Hein. Le patriarche du cinéma, nous dit Le Parisien. Disparition, Jean-Louis Trintignant, Le Grand Silence, ça c'est pour Libération, j'en prends quelques-uns. Et puis même L'Équipe qui fait un clin d'œil avec la victoire de Castres en rugby et qui cite un film de Jean-Louis Trintignant, Le Bon Plaisir. Votre souvenir, Guillaume Bigot, de Jean-Louis Trintignant, qu'est-ce qui vous restera de...
J'ai l'impression qu'on vit tous dans un éternel présent, c'est-à-dire qu'à un moment, quel que soit notre âge, on est fixé comme ça, cristallisé dans le temps. Et quand j'étais jeune, effectivement, je voyais ces films de Lelouch, hein, qui étaient probablement des films beaucoup plus vieux que moi, mais ils étaient repassés à la télévision. Et cette image de cet homme qui est doux, amer, qui manifestement aime les femmes, mais ne sait pas trop comment, enfin, qui les comprend pas, d'ailleurs, comme la plupart des hommes, il faut dire. Il y a un côté doux, amer, si vous voulez, chez cet homme. Il y a un côté d'une infinie tristesse et d'une infinie bonté. Et l'autre chose que je veux dire, c'est qu'il me semble que les très grands acteurs comme ça sont à la fois des gens assez hors normes, parce qu'il était très beau, il était très cultivé, il était d'une très grande finesse et de très grande intelligence, mais il a un côté passe-partout qui permet à tout le monde de se projeter sur lui.
De se projeter sur lui, effectivement. Merci beaucoup à Guillaume Perrault d'être venu dans la matinale week-end. Merci à vous, Guillaume Bigot, vous restez avec nous pour la suite de cette matinale week-end sur CNews. Et pour les auditeurs d'Europe 1, vous retrouvez tout de suite Thierry Dagiral et Frédéric Taddeï. Bon samedi à vous.
Et merci Isabelle Moreau, on vous retrouve demain. On accueille en effet Frédéric Taddeï, c'est arrivé cette semaine au programme. Frédéric, bonjour.
Bonjour Thierry, le voyage à Kiev d'Emmanuel Macron avec le géopolitologue Frédéric Ancel, la canicule actuelle, répétition générale du réchauffement climatique ou pas avec la climatologue Françoise Vimeux, et l'on terminera l'émission avec Jean-Louis Trintignant. Je l'avais reçu longuement sur Europe 1 en 2008. Très très bon souvenir.
À tout de suite, avec plaisir Frédéric. Dans un instant sur Europe 1, toute l'info à 9h. La chaleur qui est bien dure pour certains métiers, notamment les restaurateurs. Et puis nous serons à Irpine, reportage de notre envoyé spécial Nicolas Teneff en Ukraine. C'est à suivre sur Europe 1. À tout de suite.